CJSO 101.7, La Tribune, une présentation de Lucier et de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon.
Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à la tribune. Qu'il s'agisse d'immeubles, de sites, de documents, d'objets ou de paysages culturels, patrimoniaux, la région, est-ce qu'elle s'emploie suffisamment à sauvegarder et à promouvoir ce qui la distingue? C'est la question que je vais poser ce midi à mes invités, Anne-Marie Dulude, Albert Kelfa, Madeleine Blanche-Lucier, Geoffrey Shane Packwood, Maurice Parent, Louise Pelletier, Michel Péloquin, Patrick Péloquin et Lorraine Turcotte. La Tribune, de retour après cette courte pause.
Parce qu'en perçant dans le mur, t'as aussi fait un trou dans le chauffe-eau. Parce que des grêlons de la taille d'une balle de baseball ont passé ta maison au bat. Il y a Lucier. Vous ne pouvez pas tout prévoir. Nous, oui. Visitez lucier.co. Lucier, l'assurance de 100 ans d'expérience. Parce que ton arbre que 100 ans a pris 2 secondes pour tomber sur ta maison. Parce qu'un voleur contorsionniste s'est introduit par la petite fenêtre du sous-sol. Il y a Lucier. Vous ne pouvez pas tout prévoir. Nous, oui. Visitez lucier.co. Lucier, l'assurance de 100 ans d'expérience.
Pour la fête des mères, le cadeau parfait, vous le trouverez chez la super bijouterie Lynn et Lynn Accessoires. C'est la place la plus populaire en ville et avec le plus grand choix. Des prix pour tous les budgets, bagues, colliers, boucles d'oreilles en or. Venez voir la collection de bijoux en acier inoxydable pour femmes et pour hommes. C'est tellement abordable. Et du côté de Lynn Accessoires, c'est rempli de cadeaux exclusifs. Foulard, chapeau, sac à main et lunettes soleil pour la femme moderne. Toute l'équipe souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans. La super bijouterie Lynn et Lynn Accessoires, au cœur du centre-ville, 37 rue du Roi à Sorel-Tracy.
La Tribune, une présentation de Lucier et de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Oui, bien c'est ça, qu'il s'agisse d'immeubles, de sites, de documents, d'objets, de paysages patrimoniaux. Est-ce que la région s'emploie suffisamment à sauvegarder et à promouvoir ce qui la distingue? Mon premier invité est directeur général de la Société historique Pierre de Sorel. Il s'appelle Geoffrey Shane Packwood. Bonjour, M. Packwood.
Bonjour, M. Rochon. Ça va bien?
Ça va bien. La Société historique, elle a à son actif plusieurs fonds et collections d'archives, des centaines.
En effet, on a plus que 375 fonds d'archives conservés dans notre dépôt d'archives à Sorel.
La nature de vos documents, M. Packwood, c'est très varié. Ça va de quoi? De l'industrie maritime aux entreprises du siècle dernier?
Exactement. Là, on a les grandes entreprises qui ont marqué l'histoire, comme Marine Industrie, Sorel Industrie, mais aussi les journaux importants, comme le journal La Voix, le journal Les Deux Rives, tant leurs archives iconographiques, c'est-à-dire photographiques, que leurs archives textuelles, mais on a aussi des fonds d'archives d'individus, des particuliers de tout genre, de tout domaine, qui voulaient déposer leur mémoire, leurs souvenirs de leur époque, pour le conserver pour les générations futures.
Alors, il y a de nos archives personnelles, aussi bien lancé l'appel, il y a de nos archives personnelles susceptibles de vous intéresser.
Exactement. Oui, vous n'avez pas besoin d'être une vedette ou d'être un acteur marquant de l'histoire régionale pour avoir un fonds d'archives ici. Nous, ce qui est important, c'est qu'on veut conserver la mémoire régionale pour les générations futures. Fait que quelqu'un qui a ses écrits personnels, ses photos de famille. Il y a des gens qui déposent ici les cahiers de photos de leur grand-mère qui est décédée, puis ils se disent au moins ici, ils vont y conserver adéquatement puis pour le futur. Puis on ne sait jamais, on finit par faire des expositions avec ça, puis les mettre en valeur des décennies plus tard. Donc, on fait revivre ces personnes-là en quelque sorte.
Le centre d'archives de la Société historique Pierre de Sorel, c'est un centre d'archives agréé, hein?
Oui, on fait partie du peu de services d'archives privés agréés par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. En réalité, on est un des plus gros aussi au Québec en termes de quantité d'archives conservées, ce qui fait en sorte qu'on a un standard à respecter de qualité puis de préservation là, supérieur.
Un des plus gros au Québec, vous dites?
Oui.
Ben, une autre affaire dont on pourrait se vanter et dont on ne se vante pas.
Exactement, on l'oublie souvent. On est un service d'archives majeur pour BNQ, pour la conservation des archives privées. Puis oui, il faut le marquer, mais Sorel, c'est un nid pour l'histoire. Là. C'est une place excessivement importante pour le patrimoine et l'histoire au Québec. Là. Donc il faut des fois se vanter un peu.
Quatrième plus ancienne ville du Canada.
Exactement, ouais. Mais aussi une riche histoire industrielle et économique qui a marqué le 20e siècle. Aujourd'hui, on a tendance à s'auto-flageller, mais il y a une époque que Sorel, c'était une place incontournable là, pour l'économie puis l'industrie à travers le pays, puis même en Amérique du Nord.
Je continue sur votre centre d'archives. Là. On peut faire de la consultation sur place?
Les archives sont disponibles là, pour la consultation. Vous avez juste à appeler, réserver. C'est gratuit pour les membres de la Société historique. Sinon, c'est 10$ la journée de consultation. Vous aurez accès à la plupart de nos fonds. Il y a certains fonds d'archives qui sont fermés pour des temps déterminés, mais la plupart des fonds sont disponibles. On a aussi une collection d'anciens journaux que beaucoup de gens viennent consulter, puis sinon une collection de livres de référence, en plus de nos employés qui sont là pour vous assister.
Et être membre de votre société, de votre organisme, de la Société historique Pierre de Sorel, ça coûte combien puis ça donne quoi?
C'est 40$ par année. Dans le fond, ce que ça donne, c'est accès justement aux services d'archives ici. Ça donne accès à de l'assistance de nos archivistes et nos historiens professionnels. Ça donne aussi, ça donne le bénéfice de recevoir le Sorellois, une nouvelle version du Sorellois qui va être publiée dans les prochaines semaines, où on vulgarise l'histoire de la région là, dans de nombreux textes là, vraiment développés. Puis ça donne accès aussi à des conférences et d'autres projets qu'on diffuse pour mettre en valeur l'histoire.
Vous avez une page Facebook qu'il faut visiter régulièrement parce que vous y publiez de jolies photos anciennes.
En effet, on présente les photos, les archives qu'on conserve ici. On les présente sur notre page Facebook pour justement stimuler la discussion et l'intérêt envers l'histoire et le patrimoine de notre région. Puis on doit être fier que ça fonctionne depuis déjà bien des années.
Bon, vous offrez des conférences à l'automne, à l'hiver. Vous offrez aussi à l'été des visites guidées. Est-ce que ce sera le cas à nouveau cet été?
Oui, ça va être un nouveau défi parce que là, il va y avoir beaucoup de rénovations au centre-ville, mais oui, on va offrir les visites guidées cet été aussi, où on va découvrir l'histoire du vieux Sorel et de Sorel dans un tout là, au cours d'un parcours d'une visite guidée, là, comme on fait depuis les 15 dernières années.
Bon, Geoffrey, j'arrive à la question principale de l'émission. Est-ce que la région s'emploie suffisamment à sauvegarder et à promouvoir ce qui la distingue? Qu'est-ce que vous en diriez, vous?
Ben c'est sûr que tu sais dans mon métier je vais toujours dire non, on n'en fait jamais assez, mais en réalité tu sais si on remet les pions comme il faut avouer qu'on a de la chance dans la région non seulement d'avoir une histoire et un patrimoine riche, mais aussi d'avoir des élus puis des acteurs régionaux qui sont intéressés à préserver puis dynamiser l'histoire et le patrimoine. Faut juste des fois les pousser un peu là pour qu'ils passent à l'action puis que les comme on dit les bottines suivent les babines là. Mais de manière générale, oui, c'est relativement positif ici, mais il reste encore du travail à faire. Là. On pense, c'est sûr, à l'église Notre-Dame, au 207 rue Prince, la petite maison rouge au coin Victoria et Prince. On pense à l'ancien Marine Cabaret, là, Cyril Labelle. C'est des bâtiments patrimoniaux là, qu'il faut pousser là, pour mettre en valeur, préserver, parce qu'il nous en reste ça de moins en moins.
Vous avez bien raison. Geoffrey Shane-Packwood, je vous remercie. Merci beaucoup.
Ben, merci, bonne journée.
Madeleine Blanche-Lucier est avec nous. Bon midi, Madame Lucier.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes avec Feu Roland Plante, la co-autrice d'une série de monographies publiées par la Société historique sur bon nombre de familles sorelloises. Là, j'ai vu les Péloquins, les Saint-Martin, les Jolies, les Pelletier, les Plantes, les Lavallée, les Desjardins, les Lucier, les Goulet. Pour ne nommer que ces familles-là, il y en a, je pense, 19 à ce jour.
Exact.
Comment il est né, ce projet-là?
En fait, il est né un peu par hasard. C'est mon mentor, Roland Plante, avec qui je siégeais au conseil d'administration de la Société historique, qui me dit « Ah, tu devrais écrire l'histoire de ton ancêtre maternel. Il y a une vie très intéressante. Ben, » J'ai dit « Moi, c'est pas ma formation, l'histoire. » Alors, et de fil en aiguille, avec l'encouragement de Roland Plante, j'ai fini par écrire une première monographie. Et depuis, ça n'a cessé.
Ce sont des familles qui, chacune à leur manière, ont façonné notre territoire, notre histoire. Raconter leur histoire, c'est en quelque sorte en apprendre sur la nôtre, hein?
Tout à fait. D'abord, les seigneuries avoisinantes, comme celle de Sorel, Berthier, sont, je dirais, les familles qui ont peuplé ces seigneuries-là sont encore très présentes dans la région. Il n'y a presque pas personne qui n'est plus présent. Et il y avait peu de gens en Nouvelle-France, alors les gens se sont mariés entre eux. Alors les noms de famille dans chaque monographie sont à peu près toujours les mêmes noms qui reviennent.
Vous préparez une 20e monographie?
Oui, tout à fait. Je suis en train de travailler sur la famille Manville, qui va être la dernière monographie sous la facture qu'on avait jusqu'à maintenant, là, des grandes monographies de 350 pages.
Alors, vous allez passer à une autre formule?
Oui, on passe à un autre format, en fait, d'écrire des plus petites histoires, toujours des familles de la région, et non pas seulement strictement de Sorel, de la région à peu près de 120 pages, pour stimuler davantage les gens à connaître leur histoire, puis en apprendre sur leur famille, puis les intéresser.
La société historique a annoncé à la fin de la semaine dernière un nouveau service, un service de généalogie. Parlez-moi donc un peu de ce service, parce que vous y êtes associé.
Oui, en fait, c'est un projet qu'on a mis sur pied, là, deux collègues et moi, Louise Biron et Linda Chiopini, justement pour stimuler, catalyser là, l'intérêt des gens, de n'importe qui connaissent ou ne connaissent pas leur histoire, à partir de cliniques qu'on va faire. On va les aider à partir de leur patronyme, de leur nom de famille, à trouver d'où ils viennent, qui ils sont, et de faire la recherche autant généalogique et historique.
Ça va débuter avec une conférence introductive, là, le 17 mai, hein?
C'est le 17 mai à 19h, alors on espère que les gens viendront nombreux et les cliniques vont commencer deux semaines après.
Il y a...
Donc, faire la même chose à l'automne.
D'accord. Il y a de disponible à la Société historique Pierre de Sorel des outils de recherche?
Tout à fait. On a des livres, on a des outils maintenant avec l'ordinateur, avec l'Internet. La recherche se fait très facilement. Alors, on est abonné aux principaux outils de recherche. Et nous, on va être là comme facilitateurs pour aider les gens à construire leur histoire.
En terminant, Madeleine Blanche, Lucie, je reviens avec notre premier sujet de discussion, ces fameuses monographies dont une 20e sera publiée sous peu. On peut se les procurer où, comment, à quel coût?
On peut se les procurer soit en allant directement à la Société historique ou sur leur site Internet. Il y a beaucoup d'achats en ligne maintenant et c'est très facile, là. Le coût, je pense, je ne suis pas certaine, puis c'est autour de 25 $. Je vous dis ça sous réserve parce que je les achète pas récemment. Là.
Merci beaucoup, Madeleine Blanche, Lucier. Bravo pour votre travail et votre passion, elle est contagieuse.
Et qu'on espère communiquer à tout le monde.
Merci beaucoup.
Merci, au plaisir, au revoir.
Maurice Parent est photographe, c'est un passionné de culture, d'histoire et de patrimoine. Il a développé une technique spécifique dans le domaine de la photographie 360 degrés qui permet d'augmenter l'effet de dimension là, d'un lieu intérieur ou extérieur pour ainsi lui rendre parfaitement justice. Son plus récent projet, c'est une immersion, ma foi, remarquable au cœur du patrimoine religieux de Pierre de Sorel. Bonjour Maurice Parent.
Bonjour Sylvain, ça va bien?
Oui, vous avez photographié, Maurice, 15 églises.
Oui.
Parlez-moi de ces églises-là.
Bien, ce sont toutes les églises de la MRC Pierre de Sorel, autant des communautés rurales, que ce soit Saint-Jérôme-Magella, Saint-Roch-Saint-Ours, et aussi même des églises de Sorel-Tracy. Fait que c'est près de 80 images panoramiques en 360 degrés.
Vos images, elles sont accompagnées d'une trame narrative et puis de la musique de Philippe Bélanger aux grandes orgues des églises Saint-Pierre et Saint-Roch, hein?
Oui, c'est ça. La narration, on a fait de la recherche parce que c'était un petit peu compliqué. Des fois, il y avait des éléments un petit peu contradictoires. Mais chaque église est accompagnée par cette narration. Et j'ai eu la chance d'avoir comme acolyte Philippe Bélanger, dont on a enregistré à l'église Saint-Roch et à l'église Saint-Pierre la trame musicale de ce documentaire.
Philippe, qui est un extraordinaire organiste, qui a notamment conçu de grandes orgues pour l'église Sainte-Anne de Sorel, l'église de sa propre paroisse.
Là. Oui, c'est ça, je pense. Qu'est-ce qui me comptait, c'est que je pense que sa famille était propriétaire de l'orgue et Elle a été réinstallée à l'église de Sainte-Anne-de-Sorel.
Ce documentaire, il constitue 28 minutes que nous pouvons voir où, Maurice?
Une manière simple, c'est sur la chaîne YouTube. Vous pouvez taper youtube.com/Maurice Parent. Vous allez voir les différents projets qui sont là, dont Immersion dans notre patrimoine religieux de Pierre-de-Sorel.
La région, Maurice, est-ce que vous trouvez qu'elle s'emploie suffisamment à sauvegarder et à promouvoir ce qui la distingue?
Je vais dire, comme son premier interlocuteur, moi, je dirais que non. Parce que, des fois, même des municipalités acquièrent, dont on redressit des lieux historiques, qu'on pourrait dire, mais au niveau de l'entretien, non. Et si on parle des églises aussi, je pense que bon nombre de citoyens font des levées de fonds, soit pour les chauffer, ces églises-là, parce que si on les chauffe pas, ça le détériore, soit pour des réparations, parce que le milieu municipal ou même provincial, il met la même ardeur, j'y crois pas.
Vous avez restauré une magnifique maison devenue gîte touristique, rue Georges. Oui. Vous venez d'accoucher de ce documentaire sur nos églises. Est-ce que vous avez d'autres projets suffisamment mûrs pour nous en parler en une minute?
Le projet du Doux Georges, on n'a pas rénové une maison, on l'a restauré. On a même gagné un prix avec la société historique de ce côté-là. On a été coté par l'industrie du tourisme dans le temps. À quatre soleils. Dans le moment, j'habite même une vieille maison qui a été bâtie en 1885 avec mon fils. Petit à petit, on essaye d'y redonner une belle âme. D'autres projets, c'est sûr que dans ma technique et technologie, je vise d'autres projets aussi pour la région qui sont peut-être moins peut-être patrimoniaux, mais qui vont donner une visibilité pour nos lieux.
Merci.
J'ai près de... Je ne sais plus combien de milliers, mais je veux faire aussi connaître les voyages que j'ai faits, parce qu'il va y avoir aussi en août une exposition sur le patrimoine religieux que je vais réaliser à la Maison des gouverneurs.
On va aller voir ça. Merci beaucoup. Compliments pour votre travail remarquable, Maurice Parent. Merci.
Merci.
Merci. Nous rejoignons maintenant Lorraine Turcotte. Bonjour, Madame Turcotte.
Bonjour, M. Rochon.
Le patrimoine vous tient à cœur, le patrimoine architectural en particulier. Vous avez consacré beaucoup, beaucoup de temps à restaurer une maison ancestrale à Sainte-Victoire-de-Sorel, l'ancienne maison du forgeron Joe Dufault. Avant de nous parler de la maison, cet amour des vieilles maisons, d'où vous vient-il? De qui le tenez-vous?
Écoute, j'en ai pas la moindre idée, dans le sens que je suis une fille de la ville. Je suis née à Sorel. Par contre, mon père avait... sa parenté venait de la Beauce. Et quand j'allais avec lui et toute la famille dans ces endroits-là, il y avait beaucoup de fermes, de vieilles maisons. Et je trouvais donc qu'il y avait un cachet, il y avait une chaleur humaine. Il y avait quelque chose d'une âme quand on rentrait dans ces vieilles maisons-là. Et à ma retraite, je me suis dit, je pense que je vais me diriger vers la campagne et me trouver une belle vieille maison.
Alors, abordons la restauration de l'ancienne maison de Joe Dufault. Où se trouve-t-elle, cette maison, à Sainte-Victoire-de-Sorel?
Tout près de l'église, sur le rang Prescott. C'est une maison qui n'avait pas été rénovée, je pense pas. Parce que quand je suis arrivée ici, on peut dire qu'elle avait besoin d'amour. Et elle n'était pas isolée, alors...
Elle a été construite en quelle année?
1868.
Quand même! Vous l'avez acquise en 2012, sans garantie légale.
Oui.
Avec le recul, là, diriez-vous que c'était un projet à la limite un peu fou? J'entendais dans un entretien que vous accordiez à Linda Dufault qu'au moment de cette décision, vous vous embarquiez complètement seul dans cette aventure-là. C'était pas... Avec le recul, là, c'était-tu un peu fou?
Écoute, je pense que pour entreprendre des projets comme ça, il faut être passionné. Et c'est la passion qui nous donne l'énergie. Écoute, la déshabiller, cette maison-là, là, j'ai vu, je suis certaine que les architectes, en voyant la maison déshabillée par l'intérieur, ils diraient, je ne sais pas comment ça se fait que ça tient, elle ne correspondait pas aux normes. Mais elle tenait debout quand même depuis toutes ces années-là. Et j'ai vu tellement de choses, j'ai découvert, on voit que l'isolant dans ce temps-là, c'était de la terre avec un peu de foin. Non, mais tu sais, c'est assez primaire comme isolant. Mais puis il y avait eu 16 enfants dans cette toute petite, petite maison-là. Ça la rendait encore plus attachante. Oui, le projet était faste, mon Dieu, que ça, ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Ça a été, il ne faut pas compter nos heures. Mais je regardais l'émission Passion Maison depuis des années, au moment où Alain Choquette l'animait.
Oui, oui, oui.
Déjà dans ce temps-là, là, oh, je vais dire quelque chose là, d'assez spécial, mais je pense que je bavais quand je regardais ça.
Pas à cause du magicien, là.
Non, non. Surtout de voir tous ces gens qui avaient voulu garder, conserver notre histoire. C'est, je trouve que quand on est passionné de vieille maison, on est aussi passionné d'histoire. On est passionné, en tout cas moi, dans mon cas de généalogie, on dirait que tout ça, c'est relié. Et ma maison, elle ressemble à rien d'autre. Il n'y en a pas deux comme ça. Elle est différente, elle est chaleureuse, elle a une âme. Tu rentres dans la maison, puis il y a quelque chose que je ne retrouvais pas, parce que j'en ai magasiné des maisons puis modernes. Ou actuel. Puis je, quand je suis rentrée ici, je l'ai senti. C'est sûr que ça m'intéressait, alors c'est peut-être plus facile. Mais il y a tellement de gens qui ont dit « Comment t'as fait pour faire tout ça? » Ben c'est ça.
La famille Dufault l'a visité, des membres de la famille l'ont visité?
Oui.
Après vos travaux?
Oui. Jacqueline, celle qui a quitté la maison ici, la dernière des 16 enfants, a quitté à l'âge de 84 ans et elle est rendue à 96 ou 98, là, je me rappelle plus exactement. Mais oui, elle l'a visité, puis il y a des membres de sa famille, c'est d'un neveu et nièce qui sont venus aussi. Puis c'est sûr qu'elle ne se ressemble plus du tout, la maison, parce que je l'ai, c'est sûr, aménagée de façon à ce qu'elle, moi, elle me convienne. J'ai été obligée de battre des murs pour agrandir parce que c'est un petit carré de 21 par 24. C'est tout petit, à deux étages. Alors.
Et ils vivaient 17 là-dedans?
Bien, en tout cas, il y avait 17 enfants. C'est sûr que les plus vieux devaient avoir quitté au moment où les derniers sont arrivés. Mais à part le père et la mère, oui, 17, je ne sais pas. M. Rochon, j'ai dit à Mme Jacqueline, j'ai dit, mon Dieu, mais où avez-vous couché tout ce monde-là?
c'est incroyable.
C'est tellement drôle. Ariel disait, on a réussi à tous se coucher ensemble, là, il y avait de la place.
Ma question à la tribune aujourd'hui, c'est de savoir si on s'emploie suffisamment dans la région à sauvegarder et promouvoir ce qui la distingue, à sauvegarder et promouvoir son patrimoine là, sous toutes ses formes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Tristement, non. Je trouve ça tellement triste. Si je reçois des amis ici, là, puis qui sont intéressés aussi à l'histoire ou aux vieilles maisons, au patrimoine, j'ai pas beaucoup d'endroits sereins à les emmener. Si on va à Trois-Rivières, Montréal, Québec, qu'est-ce qui nous attire? Le vieux Montréal, le vieux Québec, le vieux Trois-Rivières, ils ont réussi à conserver, et pourtant ici, souvent, on entend c'était vétuste, on a défait le couvent, le collège Bernard, du Mont-Saint-Bernard, je veux dire, l'école Saint-Pierre, mais c'est ailleurs, là, à Montréal, à Trois-Rivières ou à Québec, ils sont pas vétus, leur immeuble, eux autres, pour qu'ils aient conservé si longtemps.
Alors, Sorel, quatrième plus ancienne ville du Canada, dont il reste peu de traces du passé. Hein?
Oui, puis quand je suis arrivée à Sainte-Victoire, il n'y avait rien à respecter au point de vue transformation de la maison. J'avais aucun règlement, il n'y avait aucune... il n'y avait aucune demande à respecter, mettons, conserver les fenêtres ou conserver les poutres ou conserver quoi que ce soit. C'était, je faisais ce que je voulais de la maison, même si elle était ancienne.
Merci beaucoup, Lorraine Turcotte, de nous avoir accordé cet entretien et bravo pour ce que vous avez fait de la maison du forgeron Joe Dufault à Sainte-Victoire.
Mais merci, ça fut agréable.
Merci. Après la pause, Albert Kelfa et Anne-Marie Dulude.
Vous avez l'âme d'un créateur et l'art de recevoir? Vous êtes passionné par le design et la décoration? Meubles André Beaulieu recherche des conseillers ou conseillères créatifs, temps plein ou temps partiel, pour partager notre mission, créer un style de vie. Si vous aimez les défis, l'écoute et le conseil client, alors venez rejoindre notre grande famille. Chez Meubles André Beaulieu, l'art de la décoration et l'accueil client sont des valeurs qui se transmettent de génération en génération. Postulez dès maintenant, venez nous voir chez Meubles André Beaulieu.
Alex, je t'ai déjà dit de ramasser tes poils de barbe dans l'évier.
Pis toi, penses-tu que t'es mieux avec tes cheveux qui bougent toujours le drain de la douche?
Tu peux pas le boucher le drain de douche, toi. T'en as plus de cheveux.
Ouch! Des accrochages? Ça s'évite avec l'Equinox RS et son alerte de prévention de collision. Obtenez un taux de location à partir de 3,9%. Plus, les membres Costco admissibles obtiennent une prime de 750 $. Passez chez votre concessionnaire Chevrolet. Des conditions s'appliquent. Détails à offrechevrolet.ca.
La Tribune. Une présentation de Lucier et de meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Qu'il s'agisse d'immeubles, de sites, de documents, d'objets ou de paysages culturels, patrimoniaux, la région s'emploie-t-elle suffisamment à sauvegarder et promouvoir ce qui la distingue? C'est la question que je pose ce midi à mes invités. Albert Kelfa fut député de Richelieu de 1985 à 1994. C'est à lui qu'on parle maintenant. Bonjour Albert.
Bonjour Sylvain, ça va bien?
Ça va bien et vous?
Ah, ça va, comme un vieux.
Sous votre règne, naquit Albert le Decemberfest, il s'agissait de rappeler les premiers occupants de la maison des gouverneurs, le baron et la baronne von Ritzel, qui, fêtant Noël à Sorel, ont illuminé le premier arbre de Noël au Canada, voire en Amérique du Nord.
Effectivement, vous avez raison. Dans un premier temps, j'aimerais souligner que l'histoire et le patrimoine de la région de Sorel, il m'a toujours inspiré puis intéressé. C'est riche dans tout ce sens. Effectivement, vous avez mentionné le Decemberfest. Peut-être il y a eu une petite erreur de choix, dans le choix du nom de l'événement. On aurait dû le qualifier le Festival de l'Arbre de Noël tout court. C'était, vous savez que la maison des gouverneurs, c'était une structure bâtie en 1780, autour de 80, par le baron von Ritzel. Et à l'ouverture, le premier Noël, sa femme, la femme du baron, elle a décidé d'inviter les dignitaires de la région. Puis elle a fait le premier arbre de Noël avec des chandelles, avec des biscuits à la façon allemande, puis il a invité le monde. Fait qu'on a essayé d'utiliser l'histoire pour promouvoir le tourisme, promouvoir notre patrimoine régional, et puis le rayonner à travers le Canada. Je me souviens, le président de l'époque, c'était M. Robert Auger, il avait négocié avec la Colombie-Britannique un arbre d'une longueur, je ne me souviens pas, puis il allait le transférer sur le CN jusqu'à Sorel.
Incroyable, c'est un beau souvenir. Comment a-t-il rendu l'âme le Decemberfest, Albert? Comment ça s'est terminé?
Ça s'est terminé malheureusement dans l'eau. C'est que j'aimerais souligner qu'on a eu un baron et baronne qui se promenaient dans toutes les écoles pour promouvoir notre histoire, notre réalité. C'est le premier arbre de Noël en Amérique du Nord était ici à Sorel, illuminé par l'épouse du général von Ritzel. Et les élèves, je me souviens, du primaire surtout, ils attendaient d'une année à l'autre de rencontrer le baron et la baronne.
Les personnages,
oui. Oui. De plus, j'aimerais rendre hommage puis remercier les travailleurs d'Atlas Steel de l'époque. Ils ont donné un arbre de Noël en aluminium, ils l'ont bâti, puis ils l'ont installé devant la maison du gouverneur.
Bien, j'allais justement vous amener là pour finir. J'allais justement dans cette direction-là. Vous regrettez que ce sapin en acier inoxydable placé devant la maison réalisée par des employés d'Atlas pour rappeler ce pan de notre histoire ne soit plus là, qu'il ait été déplacé à l'arrière de la maison. Vous trouvez ça fâcheux?
C'est triste. C'est pas seulement fâcheux, c'est triste. C'est une réalité. Puis on a essayé de la cacher pour des raisons laquelle j'ignore. J'espère qu'un jour ou l'autre, ça prendra sa vraie place. Puis la promotion de la réalité régionale la réalité que le premier arbre de Noël a été conçu, a été présenté ici à Sorel en 1781, le premier en Amérique du Nord.
Merci beaucoup, Albert Kelfa. Ça m'a fait plaisir de vous parler. On se reprend, assurément. Merci, Albert.
Merci et je vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous. Anne-Marie Dulude est directrice du BioPhare que gère la Corporation Sorelloise du patrimoine régional. On ne peut trouver à inviter plus dans le ton que toi, Anne-Marie.
Ah bon, tant mieux.
Non, mais Corporation Sorelloise du patrimoine régional, on est dans le sujet, là.
Oui, mais ça fait partie de notre mission, hein, de mettre en valeur le patrimoine naturel et le patrimoine humain de la région.
Oui, c'est en 92, à l'occasion des fêtes du 350e anniversaire de Sorel, que le conseil municipal décide de léguer à la population cette institution muséale de niveau régional qui va s'appeler d'abord le Centre d'interprétation du patrimoine et va devenir le BioPhare en 2009.
Absolument. Quand on a renouvelé l'exposition permanente, on a décidé de changer de nom.
On comprend, vous venez d'y faire allusion, on comprend en visitant le BioPhare que le patrimoine, c'est quelque chose de large, puis vous le célébrez sous plusieurs de ses dimensions à travers vos expositions.
Absolument. On parle naturellement de marine industrie, forêt industrie, tout le secteur industriel, mais on parle beaucoup du patrimoine naturel, on parle de l'histoire de la région. En ce moment, on a l'expo Germaine Gavremont et le survenant, donc on parle de la vie dans les îles, vue à travers les yeux de l'écrivaine Germaine Gavremont. Donc oui, on présente différents aspects patrimoniaux du territoire.
Vous êtes en démarche là, actuellement de renouvellement de votre exposition permanente?
Oui, oui, absolument, parce que c'est quand même depuis 2009 qu'elle est là, l'exposition. Puis quand on recrée une nouvelle exposition permanente, c'est un travail quand même de longue haleine, de à peu près 2 ans. Donc oui, mais ça demande un financement assez important. Donc c'est un travail... assez important, oui.
Ouais, c'est gigantesque. Là, je sais que la ville, pour avoir vu passer la résolution, vous appuie là, financièrement dans le renouvellement de cette exposition.
Oh oui, on apprécie beaucoup l'aide continuelle de la ville dans tous nos projets. Ça, c'est vraiment très apprécié.
Et là, vous vous tournez vers les ministères, là, je présume.
Oui, hein? Ministère de la Culture, des Communications, il y a Patrimoine canadien aussi, il y a... on a d'autres partenaires aussi, on a Rio Tinto, puis on a Desjardins. Et nous-mêmes, on investit dans ce projet-là. Mais là, on se croise les doigts pour la suite, parce qu'on n'est pas les seuls à faire ces demandes-là auprès des ministères. Hein?
Ça va coûter, je présume, des quelques centaines de milliers de dollars. Là.
Oui, 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 oui. C'est tout le temps des projets de autour de 600 quelques mille dollars, 700 000 dollars, oui.
Quand même. Vos expositions temporaires ont porté sur une diversité de sujets. Vous venez de parler de Germaine Gavremont, là, elle est très prisée, objet d'une excellente critique dans les médias régionaux. Elle est de retour, cette exposition sur Mme Gavremont. Comment décidez-vous des thèmes de vos expositions?
Oh, mais là, il y a tellement de sujets. Comme là, dans la prochaine exposition, c'est évidemment qu'on n'a pas beaucoup parlé des bateaux blancs dans celle-ci, donc on va aborder ces sujets-là. On passera pas à côté des sujets dont on parle déjà, mais on va essayer de mettre en valeur, parce que nous, on a des belles collections ici d'objets et de documents qu'on va essayer de présenter au public, parce que c'est un peu le rôle d'une institution muséale, de présenter, de rendre accessible au grand public à travers des expositions, des artefacts, des écofacts qu'on possède, des documents d'archives. Donc, oui, on va essayer de mettre en valeur plusieurs objets de nos différentes collections.
Je vous pose à votre tour la question centrale de l'émission. Est-ce que la région s'emploie suffisamment à sauvegarder et promouvoir ce qui la distingue?
Bien, ce que je trouve dommage en ce qui concerne le patrimoine bâti, c'est qu'on a tendance à pas investir. Il faut investir régulièrement pour restaurer régulièrement, pas laisser aller. Parce que si on se décide, je ne sais pas moi, 20, 25 ans, 30 ans, trop tard. J'ai peur que ça soit comme plus du tout possible de préserver notre patrimoine bâti. Ça m'inquiète. On a tendance à laisser aller les choses parce qu'on veut pas investir trop d'argent, mais ça finit par être de plus en plus coûteux parce que plus on laisse aller les choses, plus les coûts deviennent faramineux. Là. Puis je trouve ça dommage parce qu'on est supposément la 4e plus vieille ville du Canada, mais il y a peu d'édifices qui le démontrent. Donc, quand les touristes viennent de l'extérieur, ils cherchent, naturellement, ils vont chercher à avoir des vieux édifices. Donc, ici, il n'y en a pas pas beaucoup, puis ça serait bien, ça serait essentiel qu'on les protège, ces édifices-là.
Merci beaucoup, Anne-Marie Dulude. Merci beaucoup.
D'accord, merci, bonjour.
Après la pause, nos derniers interlocuteurs, Louise Pelletier, Michel Péloquin et Patrick Péloquin.
Parce que le monsieur dans le stationnement qui reculait pensait plus à son chat qu'à toi. Parce qu'un ovni est tombé directement sur ta voiture, il y a Lucier. Vous ne pouvez pas tout prévoir. Nous, oui. Visitez lucier.co. Lucier, l'assurance de 100 ans d'expérience. Parce que ton ado dans la voiture a confondu le D puis le R de l'embrayage. Parce qu'un gorille géant a décidé de jouer aux petites autos avec la tienne. Il y a Lucier. Vous ne pouvez pas tout prévoir. Nous, oui. Visitez lucier.co. Lucier, l'assurance de 100 ans d'expérience.
Vous avez l'âme d'un créateur et l'art de recevoir? Vous êtes passionné par le design et la décoration? Meubles André Beaulieu recherche des conseillers ou conseillères créatifs, temps plein ou temps partiel, pour partager notre mission, créer un style de vie. Si vous aimez les défis, l'écoute et le conseil client, alors venez rejoindre notre grande famille. Chez Meubles André Beaulieu, l'art de la décoration et l'accueil client sont des valeurs qui se transmettent de génération en génération. Postulez dès maintenant, venez nous voir chez Meubles André Beaulieu.
La Tribune, une présentation de Lucier et de Meubles André Beaulieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Qu'il s'agisse d'immeubles, de sites, de documents, d'objets, de paysages culturels, patrimoniaux, la région s'emploie-t-elle suffisamment à sauvegarder et promouvoir ce qui la distingue? C'est la question que je pose ce midi à mes invités. On joint Louise Pelletier, historienne, autodidacte et recherchiste. Bonjour Louise.
Bonjour à vous.
Vous ne vous lassez pas de scruter à la loupe le passé sorellois. Comment est née cette passion-là, Louise?
Ah, moi, c'est en 1979, le 19 mars... J'avais fait une recherche généalogique sur la famille de mes enfants. Puis les premières rencontres que j'avais été, c'était avec Michel Péloquin de Saint-Anne, qu'on était allé faire des fouilles à la bibliothèque de Montréal.
Vous vous êtes intéressé à plusieurs vieux immeubles, hôtels, cinémas, théâtres sorellois. Vous avez fait et publié des recherches sur notre patrimoine, notre passé maritime, sur notre patrimoine religieux, sur notre patrimoine funéraire. Vous en avez écrit un tas d'ouvrages.
Ah oui, beaucoup. Puis comme je suis une passionnée, si la vie me le permet, je vais continuer tout le temps.
Rien ne va ramener le vieux bureau de poste, le collège Saint-Bernard ou le couvent Saint-Pierre, mais est-ce qu'il n'y aurait cependant pas lieu de s'activer bien plus que nous le faisons, si nous le faisons, pour que d'autres vieux immeubles ne disparaissent pas? Je pense à l'ancien Cyril Labelle, érigé vers 1869, par exemple.
Oui, voici mon opinion. Autrefois, la région était moins sensibilisée à la sauvegarde de notre patrimoine régional, que ce soit bâti, naturel ou autre. Il y a eu beaucoup de démolitions de maisons à caractère patrimonial et détruites par les feux. Puis si on prend tout récemment, l'hôtel Ridge Road qui a passé au feu en fin de semaine, elle n'existe plus. Au sujet de la sauvegarde de nos archives, nos artefacts, plusieurs sont disparus ou retrouvés à la poubelle. Nos arbres étaient moins protégés. On coupait à faire place à l'urbanisation. Au sujet du patrimoine funéraire et religieux, de plus en plus d'églises sont détruites et des cimetières abandonnés à leur sort. Mais je pense qu'il faut arrêter de regarder en arrière et aller de l'avant pour protéger et conserver notre patrimoine existant. Aujourd'hui, nous avons plus de ressources culturelles, des informations à la sensibilisation et à la sauvegarde de notre patrimoine régional. Il ne faut pas oublier non plus que notre patrimoine régional est le reflet de notre passé, présent et futur.
Vous étiez préparé, Louise, c'est très bien cet appel-là à faire attention à notre patrimoine. Je parlais de Cyril Labelle. Avez-vous peur pour cet immeuble-là?
Oui, certainement pour Cyril Labelle. C'est sûr que si on n'y prend pas soin, dites-vous que à la sec comme ça, à pas à l'entretenir, il peut passer au feu, puis ça va faire comme les autres bâtisses.
Il y a plus vieux que ça encore, le 207 rue du Prince, là, une résidence unifamiliale érigée vers 1846, qui a remporté d'ailleurs un prix portail d'or de la Société historique.
Oui, la Maison Mongeau, c'est sûr. J'avais fait des recherches sur la Maison Mongeau. Puis le premier qui avait, c'est Alexander Anderson. C'est eux autres qui ont été aussi pour la création de l'ancienne chapelle méthodiste, qu'aujourd'hui c'est rendu une résidence privée.
Comment aimez-vous ça, voir, Louise, le Quai Richelieu revivre à la faveur du Centre des arts contemporains et des projets que la Ville a pour lui?
C'est super. Je trouve ça important, ça va faire revivre notre navigation, notre histoire, puis aussi pour les gens qui habitent dans le vieux Sorel aussi.
Merci beaucoup, Louise Pelletier. Merci.
Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à vous.
Michel Péloquin est maire de Sainte-Anne-de-Sorel. On le joint au pays du survenant, tiens, pour donner dans le patrimoine. Bonjour, Michel.
Bonjour, Sylvain.
Il y a chez vous de magnifiques paysages culturels, patrimoniaux et trop de ouéreux pour les admirer, trouvent certains.
Non, c'est quand même pas si pire que ça. Okay. Alors, en effet, à Sainte-Anne, on a plusieurs bâtiments patrimoniaux. Pour en citer quelques-uns, là, l'église de Sainte-Anne-de-Sorel, avec les peintures de Suzor Côté, la maison Letangue de l'île de Grâce. En fait, la maison Letangue, c'est la dernière maison du petit village, pour le dire, qui existait sur l'île de Grâce. Et il y a eu jusqu'à 150 habitants au 19e siècle qui demeuraient là. Mentionnons les maisons de la famille Beauchemin, là, les maisons sur le pilotis, à l'île d'Embarras, avec leur dépendance, le château Cardin, qui est occupé par l'ancien ministre fédéral, le piège P.J.A. Cardin, qui fut ministre de plusieurs ministères. Il a même remporté 10 élections, lui, entre 1911 et 1945. On parlait tantôt, Germaine Guévremont, justement, le chalet de Germaine Guévremont à l'île Opé. Les maisons provençales, les Mongeaux de l'île du Moine, les phares de l'île du Moine, de l'île de Grâce, et plusieurs autres bâtiments. Là. Okay. Donc, je vous ai mentionné peut-être les principaux.
Qui dit Sainte-Anne-de-Sorel dit gibelotte. Bien que les lieux où déguster le mets typique des îles est fondu comme glace au printemps, le Varvaux n'existe plus, le coin du Survenant non plus. Non. Il reste chez Marc Beauchemin?
C'est ça, c'est la seule place qui reste encore là.
Ça, c'est triste, ça.
Oui, mais écoutez, c'est pas évident de maintenir en place un restaurant saisonnier. Là. Et voilà, les derniers qui ont quitté, c'était le Varvaux. Et après quand même plusieurs années, ils n'ont pas trouvé de relève. Fait que c'est pas facile.
Allez, on reste dans le patrimoine.
Oui.
Comment avez-vous pris que le festival de la gibelotte de Sorel devienne le Jib Fest il y a quelques années? ça sent, il me semble, pas mal moins le mélange de légumes et barbottes, le Jib Fest.
Écoutez, moi, personnellement, j'ai pas tellement apprécié, d'autant plus que c'est une connotation anglophone. Non, j'ai pas vraiment apprécié, mais il semble qu'on
est vieux.
Ouais,
on n'est pas capable de comprendre, on est trop vieux, toi et moi, ouais, d'après moi. Ça doit être ça le problème.
J'aurais préféré qu'elle ait conservé l'ancien nom. Mais ça demeure une opinion personnelle.
À l'heure, Michel Péloquin, de la crise climatique, les gouvernements de plus en plus songent à éloigner les domiciles des cours d'eau. Les fameuses constructions sur pilotis là, qui ont fait la personnalité des îles, littéralement, est-ce que vous craignez les voir disparaître?
Oui, j'ai une crainte, en fait, depuis 10 ans, depuis que je suis maire, que j'ai une crainte de voir disparaître un jour, parce que dès que j'ai été élu en 2013, dans les semaines qui ont suivi, j'ai été informé que le gouvernement du Québec voulait modifier la carte des zones inondables pour notre région. Et il reconnaissait une zone de 0-2 ans, qui est le littoral. Et à l'intérieur du littoral, il ne peut pas y avoir de construction et il n'y a pas de droit, acquis en termes de reconstruction si une habitation passait au feu ou était détruite par le vent. Ce qui fait que, oui, on est toujours inquiète.
Mais ça, ce serait la disparition là, des chalets là, sur pilotis, ce serait une perte en termes de patrimoine bâti?
Non, je ne crois pas que... En fait, le risque, c'est que quand une habitation, un chalet ou une maison même, parce que l'île fantôme et l'île d'Ambala, il y a beaucoup de résidences, là, de résidences permanentes. Et donc, compte tenu qu'il n'y a pas de droit acquis, quand un de ces bâtiments-là est détruit pour une raison ou une autre, on ne pourrait pas le reconstruire.
Ça ne vous tente pas, Michel, de revendiquer une exception? Je sais pas, on pourrait l'appeler patrimonial pour Sainte-Anne-de-Sorel.
Et ce qu'on fait, c'est là-dessus qu'on travaille depuis 10 ans. Et on a même fait faire une recherche en 2016 par des gens de l'Université de Montréal sous la direction de Rodolphe de Coningue. Donc, on a eu une publication suite à la recherche qui s'appelait « Patrimoine et adaptation au gré du fleuve ». C'était fait en 2016, comme je disais. Que c'est un ouvrage scientifique où on fait l'histoire, tout l'aspect culturel local, si je pourrais dire, avec nos bâtiments sur pilotis, la chasse, la pêche, etc. Mais on va encore plus loin. On a mandaté l'an passé la coopérative Les Milieux, afin de préparer un diagnostic paysager des îles de la municipalité, parce qu'on veut déposer une candidature pour obtenir une reconnaissance du gouvernement du Québec, à savoir un statut de paysage culturel.
Ah voilà. Mais Michel, alors,
ça donnerait des droits de...
OK, Michel, faut que je vous arrête parce qu'il y a votre homonyme qui porte, dont juste le prénom vous distingue de lui, qui attend au bout du fil. Ça va être notre dernier interlocuteur. Merci beaucoup, Michel Péloquin.
C'est bien. Bonjour.
Merci, Michel. Alors oui, on passe d'un Péloquin à l'autre. On termine cette émission en compagnie de Patrick Péloquin, maire de Sorel-Tracy. Bonjour, Patrick Péloquin. Bonjour, Patrick Péloquin.
Bonjour, Sylvain, ça va
bien? Voilà. Oui, ça va bien. Enseignant en histoire, un passionné d'histoire, histoire que vous n'avez pas racontée qu'à vos élèves, mais à des auditoires bien plus larges.
Oui.
La sauvegarde et la promotion du patrimoine, est-ce que ça fait partie des motifs pour lesquels vous vous êtes lancé en politique?
Tout à fait. C'est ma première intervention en tant que citoyen à l'Hôtel de Ville. C'était pour la sauvegarde du patrimoine, pour justement le patrimoine bâti, à savoir l'église Notre-Dame, qui est encore d'actualité aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'étais venu questionner le maire d'Auplaise à cet effet, parce qu'il y avait eu un projet de déménagement de la bibliothèque qui a avorté. Alors, moi, je m'intéressais à ça. Puis, je m'étais impliqué à la Société historique Pierre de Sorel. Et puis, donc, évidemment, c'est ce qui m'a amené en politique par la suite.
Vous avez, à titre de conseiller, présidé le comité sorellois du patrimoine. C'est Martin Lajeunesse qui occupe aujourd'hui ce fauteuil-là. C'est un comité qui s'intéresse notamment aux questions toponymiques. Je veux vous amener un instant sur la toponymie. J'ai trouvé une résolution adoptée par la Société nationale des Québécois en 91. Aujourd'hui, ça s'appelle Société Saint-Jean-Baptiste, c'est revenu au nom initial, puis c'est incidemment la SSJB présidée par M. Lajeunesse. Alors, la SNQ, là, dans cette résolution adressée au conseil municipal de l'époque, voulait profiter des fêtes du 350e de Sorel en 92 pour solliciter que la toponymie du centre-ville cesse d'exclusivement célébrer la royauté britannique, c'est George, du roi, du prince, de la reine, Charlotte, Augusta, Victoria, Adélaïde, Albert, c'est pas pour Albert qu'elle fait, et j'en passe. Est-ce que ce serait un crime de lèse-majesté de revisiter ça un peu? Pas entièrement, mais un peu.
La toponymie, elle fait partie de notre patrimoine. Si on revisite les noms des rues, là, on fait ce qu'on appelle du révisionnisme historique, puis il faut éviter ça absolument. Parce que le plan d'urbanisme de la ville originale, c'est vraiment un élément patrimonial de Sorel-Tracy. C'est son plan d'urbanisme, avec nos rues là, bien en angle droit, en carré. La toponymie est liée à ce plan d'urbanisme-là.
Alors, vos prédécesseurs qui ont fait changer rue Sophie pour Hôtel-Dieu ou rue Royale pour Fizet, ils ont eu tort, vous trouvez?
À ce moment-là, non, la rue Royale, elle ne faisait pas partie du plan d'origine. Elle n'était pas dans le plan d'urbanisme à l'origine, donc le changer pour ce nom-là, oui, c'est bien. Pour la rue Hôtel-Dieu, ça a un peu défini, puis ce qui fait que c'est une rue qui n'a pas une grande charge patrimoniale, la rue Hôtel-Dieu, parce qu'elle signifie simplement que l'hôpital est sur cette rue-là. Cependant, il y a des modifications d'usage qui sont faites en cours de route, comme par exemple la rue Provost. Mais c'était la rue Prévost, puis on n'est plus dans la même toponymie. Ça a évolué avec l'usage, ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle plutôt, on l'a fait plutôt hommage à la première pharmacienne du Québec, qui est Mme Prévost, là, justement, à Provost pour cette rue-là. Mais de revoir les noms des rues, là, on commencerait à jouer un peu dans le...
Même un peu, ce serait un crime. Restons au centre-ville. Que devient le projet de monument au Carré Royal, là, rappelant l'ancien bureau de poste? Est-ce que c'est abandonné, ça?
Non, pour l'instant, parce que ça prend... Ben, en fait, le projet est un projet qui vient de la société historique, donc qui ont fait les démarches à l'époque pour avec le ministère de la Culture pour voir les lieux des fouilles. Mais là, pour l'instant, j'ai pas eu d'écho de ce côté-là pour savoir est-ce que ce projet-là continue ou pas. Là. Ça, mais... j'ai pas eu de nouvelles de ce côté-là, mais c'est pas un projet de la ville en tant que tel.
D'accord. Je m'excuse de vous bombarder de questions, c'est qu'on a peu de temps. L'ancien Cyril Labelle, devenu le Saint-Cyril puis le Marine Cabaret, n'a plus de vocation depuis l'été 2018. Est-ce que le risque ne s'accroît pas d'année d'abandon en année d'abandon que cet immeuble-là, qui date de 1869, finisse comme le bureau de poste sous le pic des démolisseurs ou qu'il y ait un feu qui prenne là-dedans?
Et on travaille pour éviter ça absolument. C'est vrai qu'un bâtiment patrimonial abandonné, il est à risque, parce qu'évidemment, il n'y a personne pour entretenir l'intérieur, même l'extérieur. Nous, on protège l'intégrité, je peux dire, du bâtiment par des règlements. Mais là, savoir quel est l'avenir de ça, on travaille sur des avenues avec des partenaires possibles. Mais c'est sûr que la ville va pas nécessairement aller acheter ce bâtiment-là, parce qu'évidemment, là, au niveau financier, il y a des coûts énormes, parce que c'est l'enjeu majeur au niveau de la protection du patrimoine dans notre région. C'est toujours le financement. Puis la ville, on a fait des choix. Par exemple, on a restauré toute la toiture de la maison des gouverneurs. Peut-être que vous avez pu voir cette toiture.
Oui, c'est magnifique.
Mais tout à fait. Donc, on l'a restauré avec le matériel d'origine, là, pour vraiment que ce soit une couverture en bois. Donc, ça fait qu'on préserve notre monument, notre fort patrimonial qui est la Maison des gouverneurs. Ouais.
Le 207 du Prince, Patrick, le 207 du Prince, 1846, prix portail d'or de la Société historique. Est-ce qu'on va perdre cette petite maison?
Il est à risque parce que le bâtiment qui appartient à la ville, on l'a racheté pour essayer de le sauver. Mais le bâtiment, c'est un bâtiment populaire. Les anciennes maisons qu'on retrouve dans les vieux quartiers des grandes villes du Québec, ils ont des fondations solides, c'était construit. Ça, ici, là, on parle de briques accumulées. Ça tient par la peinture. Alors, pour nous, là, de posséder ce bâtiment-là au niveau du patrimoine, mais un bâtiment municipal, il faudrait le mettre aux normes. Et là, on doit complètement clôturer l'accès de ce bâtiment-là. Puis même quelqu'un qui achèterait ce bâtiment-là pourrait même pas y vivre présentement à cause des règlements de sécurité d'incendie.
D'accord.
C'est un gros point d'interrogation, cette maison-là.
Patrick Péloquin, je dois déjà vous remercier. C'est tout le temps que nous avons. Merci beaucoup.
Un plaisir. Au revoir.
Au revoir. Merci à mes invités du jour. Anne-Marie Duleux, Albert Kelfa, Madeleine Blanche-Lucier, Geoffrey Chêne, Parkwood, Maurice Parent, Louise Pelletier, Michel Péloquin, Patrick Péloquin et Lorraine Turcotte. En passant samedi 19h à la Maison de la culture de Saint-Roch, activité Parlons patrimoine sous les auspices de la MRC avec deux excellents invités, Luc Nopen et Clément Loca. Allez là, alors 19h samedi. La semaine prochaine à la Tribune, on reste dans le patrimoine artistique, la semaine prochaine à la Tribune, les 20 ans de radio de Valérie Ferland.